Musicoscope, focus sur la musique contemporaine, les premiers et troisièmes lundis du mois, sur Radio Campus Angers, 103 FM.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Musicoscope, votre émission dédiée à la découverte de la musique contemporaine. Je suis Camille, votre hôte pour ce moment musical, et aujourd'hui nous embarquons dans un monde proche du nôtre, mais dont on n'a pas la preuve qu'il a réellement existé. Celui fascinant des contes et des légendes en musique. L'émission initialement prévue sur la magie sera donc finalement découpée en deux parties. La première sur les contes et légendes, et la seconde, dans deux semaines, sur les rituels, les sortilèges et la magie. Au cours de l'histoire, les quotidiens rudes et les épreuves de la vie par lesquelles nous passons tous ont souvent fait rêver les populations à un monde meilleur, un monde rêvé, peuplé de créatures fantastiques dotées de pouvoirs surhumains. Du pouvoir de notre imagination sans limite sont donc nés un grand nombre de contes et de légendes transmis par les conteurs. L'art du conte, c'est l'art de transmettre et de faire passer les histoires de génération en génération, souvent à l'oral, comme une culture commune qui nous unirait tous. Un conte bien raconté devient alors une histoire millénaire. Bien qu'ils soient souvent aux prises avec le réel, les compositeurs, eux aussi, se prennent à rêver et à devenir des passeurs d'histoires. Échappons-nous quelques instants de la réalité et commençons par écouter un extrait du conte de fées de John Zorn. Dans cet étonnant conte de fées, le violon prend la place du personnage principal, tantôt fuyant, tantôt dansant, accompagné par des harmonies qui laissent planer un certain mystère. Mais ces mystères se peuplent vite de personnages et de héros hauts en couleur, des héros et autres dieux qui deviennent l'étendard d'un peuple tout entier. Qui dit légende, dit folklore, et les mythes qui l'accompagnent. Ces histoires de dieux grecs ou égyptiens, qui n'ont-elles pas fait rêver ? Et d'autres, moins connus, sont devenus plus populaires avec le temps, comme la mythologie nordique, avec son arbre-monde sur lequel reposent les neuf royaumes, le symbole de la structure de l'univers, aussi nommé destrier d'Odin. J'ai nommé Yggdrasil. Venez d'entendre un extrait de « La source d'Yggdrasil » de Camille Pépin. C'est un véritable tableau sonore qui nous fait voyager dans l'espace, dans le temps et dans la faille ténue qu'est celle des mondes imaginés. Chaque peuple, au travers de son folklore, cherche en partie à expliquer ce qu'il ne comprend pas, ce qui n'a pas d'explication rationnelle au moment où les mythes sont créés, et particulièrement de répondre à la question « comment sommes-nous arrivés là ? C'est alors que chaque peuple élabore ses histoires sur la cosmogonie, à savoir la création de l'univers. C'est ainsi que Henry Cowell illustrera de sa musique trois légendes irlandaises, dont celle de la voix de Lir, le père des dieux, et celui qui créa le monde tel qu'on le connaît. En voici un extrait dont je vais vous raconter l'histoire. Lir, à la demi-langue, était le père des dieux et de l'univers. Quand il donna ses ordres pour sa création, les dieux qui exécutèrent ses demandes ne comprirent que la moitié des paroles de Lir, car ils n'avaient que la moitié d'une langue. En résulta que pour chaque chose ayant été créée, il y a une contrepartie cachée et non exprimée, qui est la seconde moitié du plan de création de Lir. L'origine de l'univers a inspiré de nombreux compositeurs, dont Christophe Penderecki, qui dans Cosmogonia dépeint une terrifiante création cosmique, mais également Yannis Xenakis, qui dans sa légende DR se base sur la République de Platon pour mettre en musique la création et la destruction du monde. Il construit sa pièce avec l'idée de la faire à une échelle cosmique, c'est-à-dire d'abord très lentement et au loin pour symboliser la création des étoiles éloigné des hommes. Dans la version originale de cette pièce, les sons électroniques sont associés à des jeux de lumière pour partager l'espace scénique avec la musique. Pourtant, peut-être un peu moins grandiloquent que la création du monde tout entier, ce qui fascine dans les contes, c'est surtout leur part de mystère. Et cet attrait pour imaginer ce qui nous est inconnu, particulièrement à des époques où la science et la technologie étaient moins avancées qu'aujourd'hui. C'est ce mystère que construit Edison Denisoff dans sa légende des eaux souterraines, sur des poèmes d'Yves Bergeret. En voici le premier mouvement, l'heure des reflets inconnus. Denisoff utilise ici 12 voix solistes pour créer le mystère autour de ces eaux qu'on ne voit pas, mais dont on sait qu'elles sont là, et les mêle dans des harmonies complexes et doucement mouvantes, impalpables, et qui coulent entre nos doigts et au fin fond de la terre. Pour autant, bien que les légendes sur le plus grand que nous ou sur ce qu'on ne perçoit pas mais qu'on imagine soient une source intarissable pour notre imagination, l'humain est fait de telle sorte qu'il apprend et s'identifie plus facilement à des histoires qui mettent en scène des personnages qui lui ressemblent, à savoir d'autres hommes. C'est de cette manière que la voix est toute désignée pour transmettre ses contes en musique et pour incarner leurs personnages. Les compositeurs baseront également certaines de leurs compositions sur la littérature qui met ces personnages en scène. Laissez-vous prendre par les mots de Rzewski qui nous raconte comment une jeune fille s'oppose à son père jusqu'à la mort pour donner à l'un de ses frères une sépulture digne de ce nom.
But then, Antigone, child of Oedipus, went with her jug to gather dust to cover the body of Polynices, which the angry tyrant had thrown to the dogs and the vultures.
Vous l'aurez peut-être compris, ici c'est la légende d'Antigone que Rzewski met en musique. Un conte mythique aux multiples versions, une légende sur l'honneur, le sacrifice et la famille. Mais qui dit personnage ne dit pas forcément grand drame antique, et les légendes peuvent aussi être des contes de fées, bien connus du grand public. C'est ainsi que Nino Rota nous offre une interprétation d'Aladin et la lampe magique en 1968. À savoir bien avant le dessin animé de Disney, sorti en 1992. Je ne vous en raconte pas l'histoire, je pense que vous en connaissez sa version la plus répandue, mais vous allez assister à l'invocation du génie par Aladdin. La question de l'utilisation des mythes et des légendes en musique est en un sens précieuse, car là où la création du monde où Antigone parle plus facilement à un public adulte, la mise en scène de personnages fantastiques permet aussi de s'adresser à un public plus jeune, par le biais d'une histoire merveilleuse. Ça permet d'ouvrir les oreilles des plus jeunes à l'idée de la musique contemporaine en tant que passeuse d'histoire. Écoutons un extrait du conte pour enfants d'Arthur Lavandier, La légende du roi dragon, créé en 2018. L'utilisation des mythes peut donc être un prétexte pour parler à un autre public que celui de d'habitude, avec un texte prenant et de la musique accessible facilement à toutes les oreilles.
Musicoscope, sur Radio Campus Angers, 103 FM.
Notre aventure onirique ne s'arrête pourtant pas là, car ce qui fait l'attrait des contes et des légendes, ce ne sont pas que leurs histoires fantastiques, mais aussi les créatures qui les peuplent. Ces êtres hybrides, aussi fascinants qu'ils peuvent être inquiétants, et qui habitent autant nos rêves qu'ils habillent nos dessins. Ces créatures sont partout, dans la littérature comme dans la peinture, en passant par la sculpture ou la musique, et prennent des traits mi-humains, mi-animaux, pour créer des chimères, à qui on ne prête pas toujours les meilleures intentions. Ce lien entre les arts, Arturo Fuentes ne s'y est pas trompé, et il s'est basé sur le manuel de zoologie fantastique de Borges pour écrire ses musiques des êtres imaginaires. Écoutons un extrait de Nagas, l'homme-serpent. Dans ce cycle, chaque pièce est pensée comme un tout, mêlant ordre et chaos avec son, lumière et mouvement scénique. Je vous conseille les captations de Lilith et Nagas par le Lookilin Ensemble, disponible sur YouTube. Toujours dans un registre un peu inquiétant, on peut retrouver Henry Cowell dans sa fameuse pièce The Banshee, une créature de la mythologie irlandaise porteuse de messages funèbres que Cowell symbolise par des manipulations grinçantes à l'intérieur du piano. Ces personnages hauts en couleur permettent alors de donner un autre sens aux techniques étendues, un sens plus figuratif aux effets imagés et instaurant tout de suite un climat propice aux imaginaires fertiles. Pour terminer notre émission, je vous propose une petite étude comparative de plusieurs versions d'une autre de ces chimères, elle visible jusque dans le ciel. Cette mélodie, c'est celle du Capricorne, ici tirée des Tierkreis de Karlheinz Stockhausen. Dans ces pièces, chaque signe du zodiaque a des caractéristiques différentes, initialement pensées pour être jouées par des boîtes à musique. De nombreuses versions existent, ici avec l'association clarinette-piano, mais aussi d'autres tout à fait audacieuses, comme avec une vielle à roue et une basse électrique. Écoutons maintenant le Canti del Capricorno ou Chant du Capricorne de Giacinto Chelsi, où la voix nous raconte cette créature étrange.
Ri ki
Cette pièce pour voix de femme a ceci de particulier que sa commanditaire, Michiko Hirayama, est aussi quasiment sa seule interprète. Les techniques vocales utilisées sont pensées pour sa voix à elle, et elles illustrent à merveille la dualité du Capricorne, mais aussi son inquiétante étrangeté, avec des sons de voix moins clairs ou propres que dans d'autres recherches classiques, et une progression musicale très déstructurée. George Crumb a lui aussi représenté le Capricorne par deux fois, mais lui avec pour seule ambition l'association de sa musique avec un signe du zodiaque. En résulte deux pièces, Crucifixus dans les Macrocosmos 1 et Agnus Dei dans les Macrocosmos 2. Dans la première, les harmoniques sont les bienvenues pour une progression lente et un pianiste qui parle. Et la seconde version, toujours associée au signe astrologique du Capricorne, comporte une partie nommée Prayer Wheel, qui est mentionnée comme une vision, comme si suspendue dans des temps infinis. Et là encore, notre pianiste cherche à communiquer. Après cette envolée céleste auprès du Capricorne, nous voici déjà arrivés au terme de cette émission de Musicoscope. Et j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Vous pourrez la retrouver ainsi que les précédentes sur le site de Radio Campus Angers où une page lui est dédiée, ainsi qu'un espace pour les commentaires si vous souhaitez en laisser un. Vous y trouverez également toutes les références citées dans l'émission. Pour la construction de cet épisode, je me suis largement aidée de la base de recherche musicale Brahms-Hirkam, ainsi que sur l'article « Le diatope et la légende DR » de Yanis Xenakis par Makis Solomos pour l'Université Montpellier 3. Merci à Étienne pour son aide à la technique. Nous nous retrouvons quant à nous le lundi 4 mars pour la suite de notre étude des mystères musicaux, avec une émission dédiée aux rituels et à la magie. En attendant, nous nous quittons avec un extrait de la fanfare chimérique d'Unsung Chin, qui considère que la musique peut partir d'un mythe pour ensuite l'explorer différemment, non pas pour évoquer la mythologie ou la génétique modifiée, mais bien pour ses qualités musicales et sonores. Sous sa plume, c'est la musique elle-même qui devient une chimère. Bonne écoute et bonne journée.
vous écoutiez Musicoscope. Retrouvez-nous en direct les premiers et troisièmes lundis du mois à 16h30 sur Radio Campus Angers 103 FM ou en replay sur votre plateforme de podcast préférée.